Alors, ce cours, donc, pour replacer le contexte, en 2017, on a eu donc de plus en plus d'expériences sur la place des sciences sociales, mais en même temps, un décalage avec l'approche de l'OMS, dont l'approche du social, c'est une approche purement comportementale et purement, en tout cas à l'époque, communication sur le risque. Alors, revenons à la fonction du réseau. Le rôle du réseau, vous l'avez vu dans la communication de Firmin, c'est connecter, mais c'est aussi soutenir, on pourrait dire, le maillon faible à l'époque, c'était la Guinée, puisque le premier laboratoire, non pas d'analyse socio-anthropologique de la santé, mais le premier laboratoire de recherche en sciences sociales, c'est le LASAG. Il a été créé que pendant l'épidémie d'Ebola, avec le soutien, un soutien général, dont celui du réseau. Alors, à l'époque, il y avait donc l'étude sur les survivants post-Ebogi qui a permis de structurer un centre de suivi des patients et en même temps de recherche, et qui a permis de construire un bâtiment qui est un centre de formation, le CERFIC, Centre de Formation et de Recherche de Guinée. Donc là, dans ce vide de formation, aucune formation en sciences sociales de la santé en Guinée, au CERFIC, passant, vous voyez la structuration, passant d'un projet de recherche, une cohorte sur 3-4 ans, à un centre de recherche, on avait une population de professionnels divers, mais qui avaient besoin d'une formation à l'interdisciplinaire. Et en même temps, il y avait déjà plusieurs socio-anthropologues de niveau master, ayant une formation générale à l'université à Conakry, où le doyen avait un DEA, c'est pour dire le niveau, qui travaillait déjà sur des enquêtes. Alors juste, je réponds à toi, à mon président Yves, président du CEOS, quand il nous a interpellés sur l'instrumentalisation. Je note un exemple. Un étudiant en sociologie de niveau master qui se fait qui est sollicité par un médical qui lui demande de travailler, mettons, sur l'acceptabilité, il n'a aucun moyen critique de poser la question différemment de la manière dont la pose le médecin. Et là où je dis, là où on a mentionné pour la problématique de formation que les socio-anthropologues peuvent être instrumentalisés, c'est qu'avec le niveau d'information qu'ils avaient en Guinée, on leur faisait faire, on leur a fait faire du travail social, on leur a fait faire des enquêtes CAP à tirer la... Alors qu'on sait les limites, on n'est pas dans la science. Donc c'est pour ça que l'instrumentalisation s'était articulée avec formation. Donc ce CERFIG ouvre, donc population, besoin, il y en a, assez modeste puisque ça concernait à peu près une quinzaine de personnes en Guinée. Et puis une demande, alors on a fait une petite enquête pour savoir comment ils voyaient les besoins de formation, bon, juste par quelques entretiens. Les institutions de santé publique ou les médicaux, ils veulent, par les formations en sciences sociales, arriver à une compréhension des résistances des populations. Les chercheurs, alors eux, ils ont d'autres propositions qui vont plus loin. Et puis, ils veulent que, en gros, ensemble, on souhaite qu'on puisse différencier, bien sûr, du travail social. En Guinée, il y a eu 126 socio-anthropologues qui ont été embauchés pendant l'épidémie d'Ebola, qui ont fait des séjours ou des contrats, qui ont eu des contrats. Alors, on a eu des sociologues de niveau même licence des pays voisins, embauchés par des ONG, des Nations Unies, etc. Il y a eu des PhD américains, enfin, tout profil. Souvent une approche fast in, fast out. Certains, aucune connaissance des épidémies, mais juste sociologue local, l'université Cheikh Anta Diop en produit par centaines, donc ils sont devenus ils ont eu des contrats sur place. Donc, à un autre niveau, même des chercheurs guinéens, pas nombreux, ils ont contribué, mais ils n'étaient jamais en première hauteur des études réalisées dans le pays. Donc, les bilans des besoins, c'est besoin de formation pour développer la participation à la gestion des épidémies, parce que là, il y a une demande locale, et besoin surtout de sociologues ouest-africains compétents, et besoin de volonté de participer à la communauté scientifique internationale. Alors, ça a croisé notre besoin aussi d'avoir des médicaux formés, sensibilisés aux sciences sociales. Donc, qu'est-ce qu'on a pris comme format? Un format court aussi, 26 heures sur 4 jours, avec des documents qui demandaient des lectures plus longues avant et après. Profil très varié, 4 plutôt médicaux, 1 en social et 9 allant du master au doctorat en sciences sociales. Format pédagogique, des cours avec échange, des études de cas. surtout santé publique, avec des discussions, surtout par des contributeurs de Guinée, et des analyses de documents, et puis des travaux de groupe, et des apports pour la méthodologie, ça c'était en magistral. Les disciplines des formateurs, bon, ça a été les études de cas très variées, et puis à la base, c'est essentiellement anthropologie. Le champ thématique, un peu finalement similaire à ce que proposait Marc. Et puis, on a pris quand même beaucoup d'études de cas. Alors, on avait la chance d'avoir un virologue spécialisé sur la maladie Ouipole, une maladie infectieuse rare, mais qui nous a expliqué tout du début à la fin. Donc, on a pu vraiment discuter, avoir des échanges directs. Et c'est vraiment les échanges aussi qui aident à avancer dans la formation. Alors, qui formait, réflexion, des anthropologues ou des médicaux? On sait qu'en sur cette épidémie d'Ebola, la prise en compte des sciences sociales a été trop tardive, d'où l'importance de la sensibilisation en amont. Ensuite, on sait qu'il faut que les acteurs en amont ils sachent qu'est-ce qu'ils peuvent attendre des anthropologues. Et les anthropologues, on sait qu'il faut qu'ils aient des notions de base en épidémio, santé publique et infectiologie. Évidemment, ça fait beaucoup. Alors, pourquoi avoir un groupe, quel est l'intérêt d'avoir un groupe d'apprenants mixtes? Avantage, eh bien, que c'est pas un cours magistral, c'est des interactions. On avait la chance d'avoir un infectiologue qui répondait, qui donnait beaucoup d'informations, et puis de l'autre côté des sciences sociales qui avaient une grosse expérience. Donc il y a eu des partages de compétences et de points de vue. Alors les travaux de groupe mixte, ça a aussi obligé à construire autour d'études de cas des propositions collectives, et ça c'était quand même intéressant. Les objectifs, chacun avait ses travaux, ses objectifs, hein, et finalement qui se sont bien articulés. En savoir des concepts de base en socio-anthropologie de la santé, on pourra discuter après pourquoi favoriser la socio-anthropo par rapport à d'autres disciplines des sciences sociales. Discussion des critiques et critiques des concepts flous en circulation, stigmatisation, communauté, on reprend avoir une approche critique des concepts. Les termes d'épidémiologie ont été bradés à tout va, bon, reprendre les termes et les notions plus précisément. Éléments d'histoire sociale des épidémies, évidemment, épidémie de sida sert à illustrer énormément d'aspects. Notions de base en clinique et en épidémio, et puis des aspects appliqués. Savoir-faire, bon, ben, y a aussi, ben, au sud, il faut reprendre beaucoup de choses à zéro parce que les moyens ne sont pas présents. Et donc, par contre, ce qui était assez spécifique, c'est la discussion sur les méthodes d'enquête, sachant que les formats études CAP sont, c'est la banalité des Nations Unies où ils veulent des chiffres. Et là, le fait de pouvoir discuter quel type d'études est plus compétent pour travailler sur quoi était intéressant. Alors, les contenus, on est parti de problématiques bien identifiées. Je ne vais pas détailler ça, j'en discuterai peut-être une. Qui est les rumeurs et les interprétations sur l'origine de l'épidémie, les problématiques de terrain. Et là-dessus, alors par exemple, on a apporté des notions théoriques sur la rumeur, sociologie, sur ce qui existe dans notre pays, sur les représentations de la transmission et la contagion, et puis des études de cas. Alors, bilan et conclusion, c'est une première expérience. L'évolution, point fort. Bon, ben, ils ont appris beaucoup de choses sur le VIH. Alors, nous, on croit que les universitaires, ils sont au courant, ils ont une vision un peu informée des choses. Ben, non, hein, enfin, pas toujours, quoi. Y compris sur ce qui se passe dans leur pays. Point fort, ils ont beaucoup aimé la mixité disciplinaire, l'approche, la mixité statutaire aussi, hein, et les travaux de groupe, le multidisciplinaire. La méthodologie, et puis point faible, ben, ils auraient voulu que ce soit plus long et ils veulent un manuel. Alors, conclusion, problème, alors les problèmes structurels, je crois que je n'ai pas mis de diapo de fin, problèmes structurels et la suite, et l'accès à la publication, et l'accès aux bases de données. Les problèmes structurels, clairement, on bute sur ces problèmes structurels. Alors, bon, on est bien dans un centre de recherche où il y a quand même des accès. Par exemple, INARI permet à un centre de recherche au sud d'accéder à la publication, aux publications presque autant que les accès des institutions du nord. Par contre, le soutien pour savoir mettre en forme une publication, le soutien pour l'anglais, ça, c'est au-delà de ce qui peut être apporté.
Merci beaucoup, Alice. Bravo. À ma droite, une question tout de suite.
Ouais, en fait, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, nous aussi, on pense à cette question de langage. Est-ce qu'on communique ces choses en français et en anglais? Parce que les maladies infectieuses et ces questions ne respectent pas des frontières. Et donc, comment est-ce qu'on avance les choses comme ça pour être plus large?
Il n'y a pas trop de réponse à ça. Hein. Je pense que là, on est dans un monde où la langue scientifique dominante, c'est l'anglais. Le niveau d'anglais de la plupart de nos partenaires sud n'est pas très élevé. Donc, il n'y a que des solutions individuelles de se mettre dans un cursus d'apprentissage de l'anglais. Et puis, alors peut-être des soutiens. Après, les chercheurs, à moins d'être en affectation, où là, on peut se définir un programme de soutien en continu, en mission longue durée, on ne peut pas remplir un rôle d'enseignant vraiment approfondi. Alors là, il y a peut-être une réflexion à avoir au niveau de l'IRD, parce que ça ne concerne pas que nos disciplines, hein, c'est dans toutes les disciplines, sur l'anglais scientifique, mais aussi l'appui méthodologique pour le Sud à la recherche documentaire, enfin toute la méthodologie, l'éthique, le partage des données, etc.
Autre question dans la salle? Oui.
Pour compléter avec Alice, j'aimerais juste apporter moi ma propre expérience en Guinée en termes de formation. Donc, je coordonne un projet qui s'appelle Global Vaccine Logics sur l'expérience autour des vaccins Ebola en post-épidémie. Et donc, j'ai eu à former des étudiants guinéens à l'université Sonfonia, donc dans le LASAC. Donc c'est un premier point qui est intéressant à voir, c'est de transformer des étudiants consultants, qui étaient consultants pendant l'épidémie, mais bien avant aussi, parce que j'avais rencontré des étudiants qui étaient mes enquêteurs quand je travaillais sur la maladie du sommeil en Guinée. Donc de les transformer vraiment en consultants qui étaient impliqués sur le terrain, des études courtes à interroger, à faire des tas de questionnaires. Par exemple, il y a un étudiant qui bénéficie dans le cadre du projet dans lequel je suis, d'une bourse de master, donc deux étudiants du LASAC ont des bourses de 5 000 $, mais d'avoir cet étudiant, par exemple, il y a un qui m'a beaucoup frappé parce qu'il me disait avoir interrogé à peu près 600 personnes pendant l'épidémie d'Ebola entre la Guinée et la Sierra Leone pour divers projets anthropologistes ou des travaux de consultance. Et donc, qui avait du mal à capitaliser les données et qui repartait quand on lui demande de faire des enquêtes de terrain, donc de choisir, il revenait sur les terrains sur lesquels il avait amené un anthropologue, il avait conduit une anthropologue canadienne ou bien un anthropologue américain ou quelqu'un d'autre. Donc, le premier point, c'est vraiment de transformer dans le domaine universitaire le consultant qui n'est pas diplômé, hein, qui a un master et qui a une licence depuis 10 ans, en étudiant qui fait de la recherche, qui questionne ses propres objets et méthodologiquement aussi qui construit ses outils méthodologiques. Deuxième chose, c'est l'université, comment elle est structurée.